טוב, אריק, אתה רוצה להגיד משהו?
Alors, bonsoir à tous, Roche Rodestov. À la fin du cours, il y a deux jeunes garçons de Natalia qui vont mettre un petit stand ici avec un t-shirt qui est à la fois un t-shirt. Ils ont rassemblé les deux, ils ont mis un t-shirt avec des petits kiosques au bout du t-shirt, des t-shirts qui ont été tournés en arrière par des grands rabbins. Donc voilà, c'est assez d'actualité parce qu'il fait chaud et des fois c'est un peu compliqué. On est un peu chaud avec une chemise et un tamis katane. Donc il y aura un petit temps d'ici à la fin du tuyau. Juste vous dire que, comme d'habitude, à la fin du cours, on fait la fila de Harvey et que la semaine prochaine, les 20 personnes, ce sera le Rav Avram Ifra qui vous donnera son cours à la manœuvre. Voilà, merci beaucoup, Rav.
Merci beaucoup, ce soir, j'ai voulu, les 20 personnes, faire un cours sur texte volontairement pour vous. J'obligeais un petit peu à devenir actif et pas seulement passif dans le cours et vous faire participer. Et lorsque nous avons un texte devant les yeux, la Torah pénètre beaucoup plus facilement. Et c'est un texte que j'ai écrit, les Ordre de Shem, concernant le mois dans lequel nous sommes. Puisque nous sommes refraudés, Tamouz, vous savez bien que dans le mois de Tammuz ont commencé quelques perturbations au niveau du peuple d'Israël. Et la perturbation d'une manière générale, qui englobe toutes les perturbations, c'est le début de la destruction du Temple. Il s'est passé beaucoup de choses pendant les deux mois de Tammuz et de Av. Et la racine, en fait, c'est une racine qui remonte bien plus loin que la destruction elle-même. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce cours, l'ordre du monde, Seder Olam, Binyan, Chorban ou Binyan. Le monde est basé sur un ordre qui revient, et on va le voir dans plusieurs domaines, d'une première étape de construction, puis une deuxième étape de destruction, et puis une troisième étape de reconstruction. Et vous allez voir que ce rythme-là est respecté dans beaucoup de domaines de la vie. On va essayer ensemble de voir comment ça marche. Alors je lis, je traduis et en même temps à l'avant. Hamidrash, c'est de la suite rabat parasha Bet Siman Zayin. Le Midrash nous dit Amar Rabbi Chiya Rava. Rabbi Chiya Rava nous enseigne Mitrivat Briyato Shel Olam. Safa Kadosh Baruch Hu Bet HaMikdash Banui Vecharev U Banui. Dès le début de la création du monde, Kadosh Baruch Hu, qui voit déjà l'avenir, qui n'est pas limité par le temps, il voyait déjà que le temple de Jérusalem allait être construit, puis détruit, puis reconstruit. Jusque-là, il n'y a pas de problème, Dieu voit l'avenir, il sait très bien ce qui va se passer dans le temps. Pour renforcer les paroles de ce Midrash, le Midrash vient nous donner des versets, et ces versets-là vont être en fait le rythme. Premier verset, Bereshit bara Elohim. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, premier verset de la Torah, création égale construction. Donc, Harei Banui. Le Midrash nous dit, voici la preuve. Dans le premier verset de la Torah, que tout va commencer par une construction. Deuxième verset. Ve'ha'aret taïta tohu vavohu. Et la terre était tohu bohu. Lorsqu'on entend tohu bohu, on entend destruction. Donc, harei, chavez, dit le Midrash, voici la preuve dans le premier verset, dans le deuxième verset, que il y aurait destruction après la première construction. Et le Midrash continue. Voyons, mais Elohim yéhi o, Dieu dit que la lumière soit. Donc nous avons encore une fois une lumière après le tohu bohu. Harei banui ou meshuchlal le'atid lavo. Voici la reconstruction et la perfection après la destruction. Donc l'ordre que le Midrash nous offre ici, il est clair, Kloma, Binyan, Chorban, et Binyan. Nous avons un degré de construction, création, qui suit un problème de destruction, de cassure, de brisure, puis après, de reconstruction. Et ceci est une base dans tout ce que nous allons voir et rencontrer dans notre vie d'une manière générale dans tout ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, si les premiers versets de la Torah nous donnent ce rythme-là, ça veut dire qu'en réalité, il ne s'agit pas que de la création du monde avec la terre, le ciel. Il s'agit de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, puisque dans le mot Bereshit, il y a déjà tout. Ça veut dire que d'une manière allusive, la Torah vient nous enseigner ici une grande leçon. C'est qu'Akadosh Baruch Hu a codé à l'intérieur des premiers versets de la Torah un certain rythme, qui ce rythme sera respecté tout au long de la création. Et non seulement tout au long de la création, mais même dans notre vie privée. À chacun de nous. Donc, Mitrila Tabria, depuis déjà lors de la création, le Oumid Galet de Torah Domaï, et ce rythme-là se dévoile d'une manière qui revient toujours la même chose, Bekamatrumim Bachaim Vedam Betaalich Adeoula. Dans plusieurs degrés de notre vie, et en même temps, pour clôturer tout le programme, dans la délivrance du peuple d'Israël. Puisque nous sommes dans un mois de début de destruction, à partir de cette donnée-là, nous allons voir la réalité de la vie d'une autre manière. C'est-à-dire, nous allons appréhender les problèmes autrement. Nous allons voir qu'en réalité, dans chaque chose de notre vie, il y a une étape qui construit, et de temps en temps, on va passer peut-être par des brisures, des chutes, mais qu'il y a une troisième étape, c'est une reconstruction. Et donc je dis tout de suite, c'est qu'en réalité, chaque état qui nous fait tomber, en réalité ne nous fait pas tomber gratuitement, c'est en réalité une chute qui est là pour nous élever après cette chute-là. Alors on veut comprendre un tout petit peu ce rythme, pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le monde de cette manière, et pourquoi ce rythme-là doit revenir. Le Maaseh Bereshit, et comment ça donnait des exemples? Par exemple, dans la création du monde, les deux luminaires, on les appelle dans la Torah les grands luminaires, Ameorot Agdolim, Hashem et Zayarer, donc le soleil et la lune. La Torah dit au début qu'ils étaient tous les deux grands. Et que petit trouga, c'est la Levana, c'est Amra. Si est-ce que les Shemel Achim l'Istamez de Keter Echad, mais la lune, est venu se plaindre, entre guillemets, devant le Créateur, en lui disant que ce n'est pas possible que deux astres, et là la Lune emploie un autre terme, que deux rois et une seule couronne. C'est-à-dire, entre guillemets, la Lune vient se plaindre et dit, c'est ou lui, le Soleil, ou moi. Donc à partir de ce moment-là, les deux luminaires ne sont plus les deux grands luminaires, il va rester le grand luminaire, le soleil, et le petit luminaire qui s'appelle la lune. avalé à qui de la veau. Mais à la fin du temps, il est écrit Veaya or al-levana, ki or al-chama, que la lumière de la lune redeviendra comme la lumière du soleil. Autrement dit, il y a une remontée de la lune après sa chute. D'ailleurs, il se rose la massa dans les choses, donc on revient à l'état première. Mais en Europe, avec le des deux grands luminaires. Alors, il y a aussi un jeu. Au départ, on est à égalité. Il y a une certaine chute. Et puis, on revient à cette égalité. Pourquoi ? Ouma, c'est qui ouvre, briat, ha'olam, atri, yom echad, yom semi, yom slifi. La description de la création du monde, c'est premier jour. Il fait un soir, il fait un matin, premier jour. Il fait un soir, il fait un matin, deuxième jour. Troisième jour, quatrième jour, et ainsi de suite. Je suis passé maintenant à un deuxième exemple. Lorsque Akadosh va recréer le monde, il commence par le premier jour, deuxième jour, quel jour 1, jour 2, jour 3. Mais la mère, qu'est-ce que ça veut nous enseigner ? Qu'avant ce premier jour, il y avait quoi ? Il y avait un jour qui n'était pas du compte. Autrement dit, on peut supposer que si Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, a créé le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi, le jeudi, vendredi, puis après il y a eu un Shabbat, on peut supposer qu'avant ce premier jour de création, il y avait aussi un Shabbat. Et c'est pour ça qu'on commence la création par jour 1 et qu'on clôture par un Shabbat. Et comme dans notre vie, nous avons un Shabbat avant, nous avons 6 jours, puis un Shabbat après. La même chose ici. Mais la Mère, c'est l'Islam. Il y avait une sorte de sabbat avant le premier jour, jour 1 de la création. C'est Kadam le Otam Yemeichol qui a précédé ces jours profanes. Le sabbat, ce premier sabbat qui a précédé le monde, c'était en fait l'unité, l'unité parfaite. Dès que l'on commence à compter jour 1, jour 2, jour 3, nous sommes en train de rentrer en fait dans les détails. Qui équivaut à dire qu'avant les détails, il y a d'abord le tout. On sort du tout, c'est ça la création, et on commence à rentrer dans les détails. Et une fois qu'on a fini de rentrer dans les détails, on réintègre le tout. Puisqu'à la fin des 6 jours, il y a encore un Shabbat. Moralité, nous avons un Shabbat avant, nous avons 6 jours de travail profane, puis un Shabbat après. Les Chachamim nous disent dans la Gemara, d'une manière allusive aussi, Israël observait deux Shabbats, ils auraient été délivrés. Tout de suite. Sous-entendu, si on arrive à faire le lien entre le Shabbat d'avant, les 6 jours, et le Shabbat d'après, les 6 jours. Enfin, quelle différence il y a ? Pourquoi me faire deux Shabbatot ? Et entre les deux, 6 jours, ou dans ces 6 jours, en réalité, j'ai une capacité à me casser la figure. Il vaut mieux rester dans la plénitude du Shabbat, on est bien d'accord. Lifnei yetsia la'olam, ya'olam ha'pirut va'pratim. Chazal melamdim ki seset yemei ha'biyah makbilim leseset alfei ha'shanim shel kiyum ha'olam. Et le sage nous explique dans la Gemara de Sanhedrin que les 6 jours de la création correspondent aux 6000 ans qui en réalité le temps limite pour l'existence de ce monde tel qu'on le connaît. C'est-à-dire que ce monde-là, tel que nous le connaissons, nous sommes dans le sixième millénaire, donc dans le dernier millénaire, après nous rentrons dans le Shabbat du temps. Ça veut dire que chaque jour de la création correspond à 1000 ans. Et c'est pour ça que David Amelech dans le Tehillim nous dit « Ki elef shanim be'enecha, ke yom etmol ki yavo » Car 1000 ans, à tes yeux, c'est un jour. C'est-à-dire pour nous, 1000 ans, c'est un jour pour Dieu. Donc lorsque Dieu dit dans le livre de Bérétie, jour 1, jour 2, jour 3, ça veut dire pour nous, premier millénaire, deuxième millénaire, troisième millénaire. Et comme nous sommes dans le sixième millénaire, nous sommes bientôt à l'entrée du Shabbat du temps. Et c'est pour ça qu'il va se passer, avant l'entrée du Shabbat du temps, beaucoup, beaucoup de perturbations et un petit peu de transpiration et de panique qui ressemble un tout petit peu à la panique que nous avons le vendredi. Pour rentrer dans le Shabbat. Où chacun va courir, faire ses cours, on est toujours en retard de quelque chose. C'est en fait ce qui se passe juste avant l'entrée dans le septième millénaire. Ou bien sauf à Tali, et à la fin du processus, il m'a pas ta Shabbat va elle être achevée. Le septième millénaire va correspondre donc à un Shabbat du temps, 1000 ans qui vont être Shabbat. Yachzor haolam le matzavo ha-shalem, le monde va réintégrer, va revenir à sa position d'entité. C'est-à-dire, comme le définissent nos sages, Yom Shekulo Shabbat Umnucha le Chai Olamim. Un jour entièrement shabbatique. Pour jusqu'à la fin du temps. Moralité, on a vu ça au niveau des jours, on voit ça au niveau des millénaires, et ce rythme recommence. C'est-à-dire une plénitude, puis une destruction entre guillemets, parce que rentrer dans les jours profanes ou dans les millénaires du profane, c'est une chute. C'est pas évident. C'est la mise en détail. Et quand tu rentres dans les détails, tu risques toujours de perdre l'image globale. Si vous voulez des textes, il y a ici encore. Puis après, on réintègre l'unité. Allez, c'est Dam Khan, mon fils autofeder. Donc, il apparaît le même rythme, même ici. Binyan, Korban, Binyan. Construction, destruction et reconstruction. Klomar, Hakol Matrini Matsav, c'est l'Akhdoud Gmoura. Donc, tout commence toujours. On a déjà vu quelques petits exemples déjà. N'est pas fini, par une entité où le Achar Miken Baslav se lit partout. Après vient l'étape de la mise en détail, c'est-à-dire on rentre dans tous les détails de la vie. Ameaferet Abodato Shela Adam. Et alors là je vais intégrer une nouvelle notion. Pourquoi il y a la mise en détail? Pour laisser en fait la place à l'homme. Vous comprenez bien que dans l'unité, nous n'avons pas, nous les hommes, de place. Puisque l'unité divine, qui dit unité divine, dit en réalité plénitude. Donc s'il y a plénitude, où est-ce que j'ai moi ma place dans cette plénitude? Ça ne va pas. S'il est déjà entier, s'il est déjà plein, l'homme n'a pas sa place, n'a pas même une place pour travailler, pour faire remarquer ce qu'il est, pour se réaliser, pour s'exprimer. Je peux vous donner un exemple. Si vous êtes à côté d'un grand rab, vous n'avez pas trop la parole. Si vous êtes à côté d'un grand homme, de quelqu'un d'important, il prend tellement de place qu'il ne vous laisse pas trop, en fait, l'expression. Donc vous vous sentez un petit peu inexistant. Alors imaginez-vous, devant l'Éternel, dans sa plénitude, où est la place de l'homme? Donc qu'est-ce que fait l'Éternel? D'une manière volontaire, il va en fait casser sa propre plénitude, sa propre entité, pour nous laisser, nous, l'homme, les hommes, la place de réagir. Donc c'est une miséricorde divine. Dieu s'efface un petit peu pour nous laisser la place d'être. Vous savez qu'en psychologie, au niveau parental, quel parent-enfant, il faut un petit peu jouer à ce jeu. Si le père ou la mère prend trop de place par rapport aux enfants, les enfants n'ont pas de place. Et surtout si le père ou la mère sont quelqu'un de très connu, de très important, que tout le monde respecte, l'enfant se sent diminué. Et quand on le voit, on dit que c'est le fils d'un tel. Il en a marre d'être le fils d'un tel. Il veut lui aussi être quelqu'un. Et donc il faut une intelligence du père ou de la mère pour un tout petit peu se cacher, moins prendre de place pour laisser l'enfant être. En réalité, c'est l'humilité. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, ne prenez pas toute la place. Qui nous apprend cela? Akadosh Baruch Hu lui-même. Dans le langage de la Kabbale et de la Chassidut, ça s'appelle le Tzimtzoum. Vous avez sûrement entendu déjà parler de cette expression, le Tzimtzoum. Traduction littérale, la contraction. Dieu se contracte, il ne montre pas sa totalité, il se cache. Il se fait entre guillemets petit. Comment il fait pour se faire petit, pour se cacher? Il a créé une cassette. Comment s'appelle la cassette? Celle qui cache. En hébreu, olam. Le monde. C'est une fausse traduction, le monde, en français. On devrait traduire littéralement Olam, Milaton, mais Olam, celui qui casse. Donc le Olam, le monde, tel qu'on le traduit en français, n'est ni plus ni moins que la cassette de Dieu. Dieu se cache dans ce monde. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ne le voient pas. C'est très facile de ne pas le voir. Et pour le voir, d'ailleurs, il faut travailler. C'est un jeu de cache-cache. Il faut compter jusqu'à 20. Et de temps en temps, on le rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'en réalité, Dieu a fait ce travail-là? Je suis en train déjà de répondre un tout petit peu pourquoi il y a cette mise en détail après l'unité totale. Mitoch haolam ve'hester ha'or ha'eloki. Donc Dieu se cache. Ve'sof ha'tahalich hazeh. Mais après le processus, on ne va pas jouer éternellement à cache-cache. Quand j'étais petit, on jouait à cache-cache. On se cachait tellement bien que le jeu se terminait, on ne savait même pas qu'il était déjà fini. On rentrait à la maison, il n'y avait plus rien. Et il y a un moment donné où le jeu s'arrête. Donc Dieu, à la fin du jeu, va réapparaître. Donc, une fois que la place a été donnée à l'homme, combien de temps? 6000 ans. L'éternité réapparaît. Donc, moralité, l'éternité comment? Il y a 6000 ans d'expression humaine et retour à l'éternité. Réapparition de l'éternité. Entre-temps, il y a une possibilité de découvrir cette éternité par le travail de l'homme. Mais c'est un travail difficile. Dame et cela, Adam offre à cette domaine. C'est l'homme, ce rythme est respecté aussi. Binyan, Khorban, Binyan. Construction, destruction et reconstruction. C'est avec un souverain secret Nida d'Aflame. Il est écrit dans la Gemara de Nida, à la page 30. C'est Aoubar Bene, il m'a l'omède que la Torah Kula Mitimala. Que le fœtus, dans le ventre de sa mère, on lui enseigne toute la Torah. C'est un ange qui lui enseigne la Torah. Et j'ai bien entendu comprendre que les anges viennent nous enseigner par ça. Mais en tout cas, c'est ce qui est écrit. C'est-à-dire que nous avons une étude de Torah pendant les 9 mois de la grossesse, à l'intérieur du ventre de la mère. Et cette sagesse qui est donnée à l'enfant, qui n'est pas encore sorti, à l'intérieur du ventre, on va lui faire oublier tout ce qu'il a étudié le jour où il sort. C'est-à-dire, on lui enseigne la Torah pendant 9 mois de notre temps. Mais dans le ventre de la mer, c'est une éternité. Donc on lui enseigne toute la Torah. Le temps n'existe pas pour lui, là-bas. Au moment où il sort du ventre, le jour de l'accouchement, on dit dans la Gemara que un autre ange vient et le frappe pour lui faire oublier toute la Torah qu'il a appris dans le vent. Mais c'est seul à dire à Olam, le Chachma Emet, sinon à Chachma Azot de Midrasa, le nerf d'Alouk. Et les sages nous disent que cette sagesse enseignée à l'enfant ressemble à une bougie qui se trouve sur sa tête qui lui permet de voir de la fin du monde jusqu'à la fin du monde. Je vous traduis littéralement le terme de la Gemara. C'est-à-dire une capacité à l'enfant de voir les causes et les effets. Bien entendu, il ne s'agit pas de voir une distance. C'est-à-dire que l'enfant, dans le ventre de sa mère, a un degré de prophétie. Il arrive à voir l'avenir. Il arrive à voir du début à la fin de l'histoire. Alors je vous pose la question, pourquoi on lui fait oublier lorsqu'il sort du ventre? À quoi ça sert toute cette étude? De où ça mouba Gmara? Donc les sages nous disent dans la Gmara, je continue ce récit, Nerdolek, Nerdalouk, Mounach al Roshot, Sofé ou Mabit, Misof, Aolam, Vastofo. Il a une lumière qui lui permet de voir, une sagesse en fait, qui lui permet de voir de la fin du monde à la fin du monde. Les vannes qui l'assalent et avirent à Aolam, mais dès qu'il sort, au moment de l'accouchement, Dam al ach besotro al piv. Un ange vient, le frappe sur la bouche, ou maskiach ni men encore la Torah koula, il fait oublier toute cette Torah. C'est Nehema, comme il est dit, la pétach chata trové. Dès que tu es sorti, la pétach, à l'ouverture, chata trové, le mal t'attend, il va te sauter dessus. C'est-à-dire qu'en réalité, le petit bébé dès qu'il sort du ventre de sa mère, il est dans une nouvelle réalité où le mal lui saute dessus. Qu'est-ce que c'est le mal ? L'oubli. L'oubli d'en réalité la réalité. L'oubli de la vérité absolue. Il rentre dans un monde de détails. Il est plongé maintenant dans les détails. Il risque donc d'oublier. Donc là, ici, on revient au même rythme de construction, de destruction et de reconstruction. Où est la reconstruction ? C'est toute la vie de l'enfant. C'est-à-dire que pendant toutes les années, de l'enfant jusqu'à l'adolescent, jusqu'à ce qu'il devienne adulte, qu'est-ce qu'il va essayer de faire, cet enfant ? De récupérer, d'une manière ou d'autre, la Torah qu'il a déjà reçue dans le ventre. Et c'est en réalité pour cela que nous étudions la Torah. Mais en réalité, on n'étudie rien de nouveau dans la Torah. On ne fait que répéter. Nous n'avons qu'une répétition de ce que nous avons déjà appris. Alors encore une fois, ce n'est pas compréhensible. Pourquoi tout ça ? Mais cela veut pas trop tôt que la yel. Donc au moment où l'enfant va grandir, se développer, derrière quoi la masbénis ou pogesh bechayav, il va rencontrer beaucoup de crises dans sa vie. Il va construire lui-même, il va se construire. Vetorat, il va construire sa Torah. Vetma Asad, il va construire ses actes. Umetaken Midotad, il va arranger ses vertus. Cause d'autre que de la Sida Binyan Asamem, mais l'Oa Boucha, c'est le Kabbalah Trinam, et tout ça pour ne pas recevoir gratuitement les choses. Et là aussi, je vous ai déjà donné une réponse. J'avance en donnant quelques réponses. C'est-à-dire, nous avons déjà une clé. Pourquoi enseigner la Torah dans le ventre de la mère pour ensuite la faire oublier ? Tout simplement parce que l'enseignement qui est donné dans le ventre de la mère est un enseignement qui est reçu gratuitement. Ne demande pas à l'enfant de faire un effort. C'est une raison aussi pour laquelle je vous ai diffusé des faits. Pour suivre en même temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Torah que nous recevons gratuitement, sans effort de notre part, n'est pas une Torah qui reste. Si vous ne participez pas à l'élaboration de votre vie, les choses ne restent pas. Un des rabbanim que je connaissais, qui a quitté ce monde, disait qu'il n'était pas un rav qui donnait des brachot aux gens. Il refusait de donner des bénédictions. Il dit, si vous avez envie de bénédictions, allez chez d'autres rabbanim. Moi, je ne donne pas des bénédictions, je donne des conseils. Parce que quand je te donne une bénédiction, je te paralyse. Tu as l'impression que l'aide va venir de l'extérieur et toi tu ne fais rien pour t'aider toi-même. Donc je vais te donner un conseil et pour moi c'est ça la bénédiction. C'est-à-dire que toi tu vas élaborer ta propre vie. Je te force à construire ta propre vie et ne pas attendre des solutions qui viennent du dehors. Et si cet enfant grandit, et qu'il a le mérite. Et là, je donne encore une autre réponse. C'est que la Torah qui va être atteinte, la Torah qu'il aura atteinte durant sa vie, est beaucoup plus haute, beaucoup plus grande, beaucoup plus construite que la Torah qu'il aura reçue dans le ventre. Pourquoi ? Tout simplement parce que le rythme que nous sommes en train de répéter depuis tout à l'heure, de construction, destruction et construction, c'est pas pour revenir au même degré de construction du départ. À savoir que la construction du départ est beaucoup plus basse que la construction deuxième. C'est-à-dire qu'il y a construction, il y a destruction, mais la deuxième construction va être beaucoup plus haute que la première. Tout simplement parce qu'il y a une participation de l'homme. Il y a fait mal. Ça veut dire que le travail, et c'est ce qui a marqué dans le verset, c'est pas que la lune va être plus grande que le soleil, elle sera plus grande que le soleil de maintenant. Comme il est écrit, je n'ai pas suivi le verset, « Vaya or alvana ke orachama » Et qu'est-ce qu'il est écrit après ?« Ve orachama sivatayim ke or sivatayamim » C'est-à-dire que même la lumière du soleil d'aujourd'hui sera 49 fois plus forte. Donc la lune ne viendra pas au degré du soleil d'aujourd'hui. On n'a rien gagné. On avait déjà tout. on a perdu, on revient vers ce signe que j'ai gagné. Elle aura atteint un degré multiplié. On commence déjà à avoir une ligne de conduite. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé ce monde avec ce rythme-là? De détruire quelque chose d'ancien pour ensuite le reconstruire. Quand on fait des ranals, mon fils a gambé et tassadé. C'est la même chose quand on plante un arbre. Qu'est-ce qui se passe? Bakrila me abri meta adama. Au début, on laboure la terre. Vezorimba et tazera. On va planter la graine. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui se passe? La graine devrait pousser? Pas du tout. La graine commence par un processus de pourrissement. Elle va se décomposer totalement. Et celui qui n'a pas de patience, non seulement il ne voit pas l'arbre pousser, mais même la graine qu'il a plantée a disparu. Et donc il ne comprend rien. Ou bien comme il se passait à Khniyad, au lieu d'un dévoilement immédiat, il met à Zera Mirka Adama. La semence est en train de se décomposer dans la terre. Verat l'achar ta'ali chavor chelit parkout, et après un long processus, beaucoup de patience, Roser Benivna Mechadash, il y a une reconstruction où ma trilismore, il commence à pousser. Mamash Betali Khadome le Triatametim, c'est exactement l'équivalence de la résurrection des morts. Vous voyez donc qu'il y a une suite logique, et dans tous les domaines de la vie, bien entendu, je n'ai pas amené tous les exemples, mais on est en train quand même de toucher quelques points dans beaucoup de domaines qui respectent ce rythme-là. Kadosh Baruch Hu bara et Adam, on revient vers l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, il est Neymar Sam il dit sur sa création, Zachar unekeva bara otam vaikras mam Adam. Il les a créés mâle et femelle. Et il les a appelés comment? Adam. Les deux ensemble. Ça veut dire que lorsque vous dites à quelqu'un Adam, ça sous-entend mâle et femelle. Le Achar Matav c'est Shlemut Mekori. Après cette entité-là, il est matri massav sur le Tirud. On voit que Dieu sépare le côté masculin du côté féminin. Et le côté masculin va maintenant avoir le nom de Is, et le côté féminin va avoir le nom de Issa. Encore une fois, on est parti d'une unité. On arrive à une étape de séparation. Dieu endort le premier homme. Vous connaissez, et il lui sort la femme de son côté. Donc il y a une séparation. Ce processus d'ailleurs revient dans notre monde. C'est-à-dire que avant de descendre dans notre monde, dans ce monde-là, dans le monde spirituel, nous sommes déjà mariés avec la femme qui nous correspond, ou le mari qui nous correspond. Vous savez ça? C'est-à-dire que les âmes sont déjà collées. Chacun, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il est dit 40 jours après sa conception, bat ploni le ploni. Comme ça dit la Gemara. Telle fille correspond à tel garçon. C'est-à-dire que 40 jours, vous êtes à 40 jours de la grossesse de la maman, c'est rien. À ce jour, la 40. En détresse dans le ciel, avec qui vous allez vous marier? Ça veut dire que vous êtes déjà prévu pour quelqu'un. Pourquoi? Parce que cette force-là, vous l'avez déjà avant de descendre dans ce monde. Autrement dit, avant de sortir dans ce monde, nous sommes déjà mariés spirituellement avec l'âme sœur. Et mon épouse et moi, nous étions un dans le ciel. Mais ce qui se passe, c'est dans le rythme que nous sommes en train de développer dans ces tuyaux, c'est que dès que nous descendons tous les deux, on va se séparer. Moi, je vais naître, même au niveau du temps, séparément d'elle, d'un ventre d'une maman, différent d'un autre ventre d'une autre maman. Il va falloir beaucoup de bonté divine et de recherche de ma part et de sa part pour que nous nous retrouvions. Pas facile. C'est-à-dire qu'en réalité, la femme que j'ai épousée dans ce monde, était ma femme déjà au niveau initial dans les âmes. Et c'est comme si j'ai recherché quelque chose que j'ai perdu. D'ailleurs, les sages disent comme ça l'Andmara. C'est Ilou Mechapes Avedato. Il cherche la moitié qu'il a perdue. Vous savez que dans l'Agmara, il y a un jeu au niveau du rythme des Gmarot. Dans l'Agmara qui parle des divorces et dans l'Agmara qui parle du mariage. Comment s'appelle l'Agmara qui parle des divorces? Dit-il, comme le guet. Comment s'appelle l'Agmara qui parle des mariages? Qui dit-il? D'après vous, qui est avant qui? Dit-il ou qui dit-il? Kiddushin? Eh bien non. Les sages nous disent que Kiddushin vient avant. Pourquoi? Parce qu'avant de se marier, elle avait déjà un divorce. Nous étions unis dans le monde d'en haut et nous avons divorcé dans le monde d'en haut pour nous remarier dans le monde d'en bas. Et donc les sages ont suivi ce rythme. C'est pas comme disent les mauvaises langues, c'est pour prévenir et déjà prévoir le divorce avant le mariage. Mais au niveau profond, il s'agit là d'un ordre bien, bien précis, extraordinaire. Alors regardez dans le texte. Sira. Qu'est-ce que c'est un divorce? Alors explique-moi ce que c'est un divorce. Vous savez combien de gens cherchent des femmes et des hommes et ne le trouvent jamais? C'est ce que je vous pose la question. Il y a des gens qui quittent ce monde sans avoir trouvé leur moitié. C'est un divorce. C'est maman, c'est un divorce. C'est une coupure tellement grande qu'on a oublié. Qu'on ne sait même plus à quoi elle ressemble. Ou à quoi il ressemble. C'est pas évident. De temps en temps, quand on se retrouve, on se dit, c'est toi, j'ai l'impression que c'est toi. J'ai l'impression de reconnaître quelque chose. C'est pas évident. Ça s'appelle un divorce. Ok? Quand un couple est séparé et qu'il n'y a pas de vie familiale, il n'y a pas de vie commune, ça, mais badaille, mais au niveau d'une chassie, vous me parlez d'un papier, moi je vous parle d'une réalité. Okay? C'est pas la même chose. Quelqu'un qui n'a pas de vie familiale avec sa femme, c'est un divorce. Même s'il n'a pas le papier du divorce. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah. Et si les choses ne sont pas respectées au niveau familial, ça équivaut à un divorce, même si on n'a pas le papier. D'ailleurs, je peux vous dire un verre. Au niveau des liens hommes-femmes, même s'il n'y a pas de kiddushin à la synagogue avec un papier qui s'appelle la ketouba, à partir du moment où un homme et une femme ont été ensemble, ils sont mariés au niveau du ciel. Ce qui est grave aussi. Okay? La halakha ne doit pas nous obscurcir la réalité du divin. Okay? Donc s'il y a le mérite dans ce monde, après un long cheminement de recherche, après la partie perdue, ils redeviennent une seule chair. Et c'est pour ça que le texte dans la Torah dit, ils deviendront une seule chair. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, ils l'étaient déjà. Ils sont une seule chair. Comment ils se sont séparés? Que moi, c'est à Yubashore, comme ils l'étaient dans leur source. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous faisons cette bénédiction lorsqu'un homme et une femme se marient. Pourquoi? On dit que Kabbalistes, ce sont sept points de colle pour recoller la brisure entre ce couple-là. Chaque bénédiction va être un point de colle, très fort. Et c'est pour ça que les sept avant-chôtes sont très importants. Et il y en a sept, multipliés par sept, c'est-à-dire 49. Ça veut dire qu'on va se coller de 49 points de colle, ce qui veut dire, dans un monde plus profond que je ne vais pas rentrer maintenant, que nous sommes reliés jusqu'au Lamaba. Et d'ailleurs, la choupa peut s'écrire en hébreu chof. Vous savez ce que c'est chof? Vous habitez au bord de la plage. Chof, c'est le bord de Ré. Khufa. C'est-à-dire le bord du Ré. Quel Ré? Le premier Ré du nom divin. Parce qu'il est ici quelque part, le voilà. Vous voyez le Yud, Ké, Vav, Ké. On arrive au bord du Ré. L'homme va être le Vav et la femme va être le dernier Ré. Et lorsqu'il s'accouple, il rejoint le premier Ré qui est en fait le Olam Abba. Et à l'intérieur de ce premier Ré va rentrer la graine qui est le Yud et qui va leur donner la vie. C'est-à-dire un enfant. Et donc vous allez écrire, réécrire le nom de Dieu. Et c'est pas par hasard qu'il y a quatre hommes qui tiennent la choupa, équivalent aux quatre lettres du nom de Dieu. Et il y a encore beaucoup de choses à l'intérieur, que ce n'est pas le moment. Je reviens au rythme du cours. Union, séparation et réunion. Nous sommes dans la partie haute à gauche. Mais c'est bien que Kolma se corrige par la motatartonie. Puisque tout ce qui se passe ici, dans notre monde réel, entre guillemets, hein, parce que c'est en réalité le monde réel, n'est pas celui qu'on croit. Hein, qu'est-ce qui est réel dans cette table? La matière ou l'énergie? C'est évident, hein. Il y a 99,9999 d'énergie et 0,00000001 de matière. Vous savez ça? Vous savez que si on condense toute la planète Terre, vous pouvez la mettre sur la tête d'une épingle? Scientifiquement. Ça veut dire que la plupart de ce que vous voyez matière, c'est du vide. Si on arrive à condenser tout ça, okay, toutes les molécules, on arrive à rentrer en fait dans rien du tout. Si vous arriviez à vous faire très petit, vous arriveriez, en français des images, à passer entre les molécules. C'est une distance énorme entre chacune d'entre elles. Des kilomètres. Seulement, comme nous sommes grands, on a l'impression que non. Mais si on se fait très petit, on peut traverser la matière. Il se vint, c'est comme un secoré dans la monte à tartonine. Et puisque tout ce qui se passe ici, sur chaud dans la monte à Elionie, sa racine est dans le monde caché, justement, dans le monde de l'âme, qu'on appelle le monde supérieur, la chaîne d'Aimé Tatou Basfarim Adbassim, c'est de Briat Aolam, Ayamatat, c'est Slemout, Zahdout, de Prinat, Orentof, mais malé, qu'on a mis tout. Nous dit le Harizal, dans son premier chapitre de Ephraim, le livre clé de la Kabbalah, qu'avant la création de ce monde, il y avait la lumière infinie, pas une lumière électrique, une lumière infinie, qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire, qui remplissait toute l'existence. Ça aussi, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais le Harizal veut nous dire, avec des mots un petit peu compliqués, qu'il n'y avait pas de manque. Il y avait une entité parfaite. Une plénitude. Ou que c'est à l'abîme, son nom, il barach le haki, libro, l'histoire, vela, asot et briato. Et quand le Créateur a voulu, et regardez, je vous ai mis ici un ordre, le haki, asilut, libro, bria, l'histoire, yestira, vela, asot, asia. Quand Dieu a voulu passer par toutes les étapes de la création, le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde du façonnage et le monde de l'action. Mais il s'est entre guillemets contracté. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a écarté, cassé sa lumière. C'est comme si Dieu avait fait quelque chose d'inverse à lui-même. Puisque lui-même, c'est l'entité, c'est la plénitude. C'est le tout. Il a créé un système qui est inverse. Un système qui manque. Un système qui est cassé. Un système de vide de lui. Et c'est ce secret-là qu'on appelle le Tsimtsoum, qui est d'ailleurs le mot jeûner vient de cette racine. Tam. Yom Tom. Un jour de jeûne. C'est-à-dire quand tu tam tam. C'est Tsimtsoum. Ça veut dire que tu te fais de plus en plus petit. Tu ne manges pas quelques jours, tu verras. Tu vas devenir une vapeur. C'est ça le Tsimtsoum. Où serait-ce que la Kelim s'imprimait trop? C'est-à-dire qu'en créant ce système-là, Dieu a créé en fait la capacité à devenir ustensile. Donc il s'est creusé. Beyachas l'aor amekori, en rapport, par rapport à la lumière initiale. Autrement dit, le fait que Dieu se soit caché, il a créé un vide qu'il faut remplir. Et à qui je vais le remplir? Qui va remplir ce vide? L'homme a un petit travail dans ce remplissage. La plupart du travail se fera par Dieu lui-même au départ, et il va laisser un tout petit travail à l'homme pour finir de remplir. C'est comme un puzzle qui était construit au départ. Quand vous l'achetez, il est construit, il y a toute l'image. Et après, on vous le mélange dans le magasin. Vous arrivez à la maison, tout est la panique. Et l'enfant commence à le construire. Mais comme il ne sait pas au début, alors le père lui fait un petit peu les contours. Et à la fin, il lui laisse quelques pièces. Et l'enfant qui finit ses pièces, il dit « Papa, j'ai terminé. » Il a fait « Bravo. » C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a fait la plupart du travail. Il nous a laissé juste terminer ce travail. Et pour terminer un tout petit peu ce travail, on a 6000 ans. Tellement nous sommes lents. Okay? Parce que, au lieu d'avancer tout le temps, nous avons des avancées, des reculs, et on joue, okay? On danse. En réalité, on avance tout le temps. Mais il y a beaucoup, beaucoup de pertes. Okay? Et Dieu est patient. Mais la sonnerie sonne. À la fin du cours, on ne peut plus. Et la sonnerie va bientôt sonner. Parce que nous sommes à la fin du temps. Les achar miken ikhil haor litpaset el tok halal atimtum. Donc la lumière qui s'est elle-même rétractée est revenue dans le vide. Les achzir bo et achayim pour amener la vie en fait. Vous comprenez bien que cette lumière c'est la vie. Quand la lumière réintègre le vide, c'est la vie qui revient. Comme l'âme dans un corps. Yotzer foshedam b'sor eshabriya. Tout ceci est juste pour vous donner un exemple. Que tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, d'une entité, d'un manque et d'une entité, c'est-à-dire construction, destruction, reconstruction, en réalité c'est dans la base même de la création du monde. C'est pour ça que c'est comme ça dans ce monde. Ben là on touche la cause. Parce que le monde a été créé de cette manière-là. Kvar oto imyan tel binyan, vesirata binyan, vesur binyan. Donc nous avons une construction, une destruction, une reconstruction. Ou que divrei chachamim zal, comme disent nos sages, shaya kadosh baruch hu bone olamot u'machrivam. Les sages vous donnent une expression dans la Kabbalah, que Dieu construisait les mondes et les détruisait. Ça vous rappelle quelque chose? Mon cher Rabbeinu, pour élaborer, pour ériger le Mishkan, le tabernacle, qu'est-ce qu'il faisait pendant 7 jours avant le 8e jour où Dieu, entre guillemets, s'est dévoilé? Il y a marqué que Moshe, tous les jours, construisait le Mishkan et le démontait tous les jours. Tout seul. Incroyable. C'est marqué comme ça. Pendant 7 jours. Et le 8e jour, c'était Yom HaShmini. Okay? Les 7 jours qui précédaient, les appelaient Sivat Yemei HaMiluim. Les 7 jours de Miluim. C'est-à-dire de remplissage. Okay? C'est de là que viennent les Miluim d'aujourd'hui. Sous un autre angle. Le 8e jour, Dieu apparaît. Ça veut dire que Moshe, la même chose, il joue un jeu de construction, de destruction et de reconstruction. Et quelqu'un qui regarde extérieurement ce phénomène, il se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Après, on va parler. Dans un livre de Torah actuel du Rav Tao, le Rosh Yeshiva de Har Hamor à Jérusalem, il est écrit Dougmat Ispatruto c'est la parpar. Il amène l'évolution de la création d'un papillon, qui est donné d'ailleurs dans le Rav Kook. Comment un papillon est créé? Alors, si vous rentrez dans ce siour là-bas, une folie. Et dans le siour, il dure des pages et des pages, et vous avez l'impression, bon, ça va, un papillon, ça va vite. Incroyable. Arbat, la vie, il y a 4 grands états, Hamakbilim, la Seder, Aniskar, qui correspondent à ce qu'on vient de dire ici. C'est-à-dire construction, destruction, reconstruction.
בהתחלה מופיע ביצה, עוד דבר אם יהיה הנף, והביצה הופכת לזחל, אסתוב דוויה עם לרב. ואחר תהליך ארוך ומסובך, יפכן פרוססיס très long et très compliqué, très complexe, qui apparemment détruit tout ce qui est en train de se développer devant nos yeux. כסירה מוחלטת לכל תהליך הבניין, חוזר הזחל, on a une réapparition de cette larve, qui elle-même va se manger de l'intérieur, et va disparaître encore, et va réapparaître, incroyable. Venia le golem, il devient un genre de... Je ne sais pas comment on dit golem en français. Hein? Une masse inerte. Qui ne bouge pas. ורק בסופו של דבר, דרך מהפכים וספקות אין ספור עבור המתבוננים בחוץ, קלטן תרגרד, לבוליטון שתפיו, היא תגיד, זה תטרומפה לה, היא תשא סיבתה. שלמה על הפן זה פרוססיס, כן מתגלה הפרפר היפה והעדין, וזה פרי הפפיון, כי היא מניפית, כי היא תגירה דזו. תקועת, תקועת. מתוך כל הדוגמאות שהבאנו, tous les exemples que j'ai essayé d'amener ici, qui sont bien entendu pas tous les exemples de la réalité, quand j'étais obligé de couper ce cours, mais c'est la pshuta. La question qui revient est toujours la même. Mao hatorich b'ma'avar derech masarim shel korban. Pourquoi nous sommes obligés de passer par des étapes de destruction, et cholim bechlet yot melouvim b'tsekot de masberim, qui vont automatiquement être accompagnés de beaucoup de doutes, de beaucoup de crises, et là je traduis ça à la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, pourquoi Dieu ne nous fait pas un processus de délivrance d'Israël d'une manière simple? Pourquoi nous sommes toujours obligés d'arriver à un certain sommet, de se casser la figure, de remonter, de se recasser la figure? Mais c'est quoi? Pourquoi les choses ne sont pas simples? Pourquoi Dieu ne nous donne pas les choses clairement, tranquillement, en toute la vie comme on dit, et c'est fini? Pourquoi j'ai besoin de souffrir pour arriver à un degré? De Iboud à Tikva, il y a plein de gens dans ce processus qui perdent l'espoir. Ils ne comprennent pas. Vous êtes en train de me dire que nous sommes dans un processus de Géoula. On est arrivé en Israël, et au fur et à mesure des jours qui passent, on donne des morceaux de terre. On se vide de ce qu'on a nous-mêmes conquis. Et on a l'impression qu'au lieu de monter, on est en train de se dégrader. Est-ce un processus de Géoula ou alors c'est en train de me moquer de moi? Pourquoi le processus prend cette forme? Rosser et mon abétit katadel, à tel point que certains d'entre nous, malheureusement, commencent à avoir des doutes même de la véracité de ça. Tout ceci n'est pas un cours pour que vous sortiez pessimiste, c'est bien l'inverse. C'est-à-dire que j'explique dans ce cours qu'en réalité c'est un processus prévu par Akadosh Baruch Hu. Et celui qui justement va lâcher l'histoire en plein milieu, qui va quitter la salle en plein milieu du processus, imaginez-vous le papillon qui va se développer pendant 3 semaines avant de devenir ce petit papillon, et vous, au bout d'une semaine, vous en avez marre, et vous quittez la salle, vous dites, c'est pas la Géoula pour moi. J'avais raté tout le film. Parce que, dans le chemin, il y avait justement cette descente. Mais si vous comprenez, d'avance, parce que vous avez un cours, que cette descente fait partie d'une remontée, et qui va vous remonter beaucoup plus haut que 10 degrés où vous êtes venu au départ, alors là, vous vous dites, ça vaut la peine d'attendre un petit peu encore. וכל זאת כדי להשיג מחדש שלמות שכבר הייתה בהתחלת הדרך ונעלמה. J'avais déjà cette plénitude, pourquoi tu me fais revenir à cette plénitude? Mais je vous ai déjà donné la réponse. Et là, c'est que ce n'est d'ailleurs que la sonne à Midrash. Et d'où j'ai inventé cette réponse? Pourquoi je dis que la deuxième fois, quand on remonte, c'est beaucoup plus élevé que la première fois? D'où j'ai inventé cette chose-là? Eh bien, repartez tous, regardez maintenant, c'est pour ça que vous avez les yeux sur les feuilles. Regardez la dernière ligne en gras, au départ, dans le premier chapitre, quand je cite le Midrash lui-même. Quand je dis Vayomer Elohim Yehior, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Banouille. Mais il y a une suite. C'est pas juste construit. Ou Meshouchlal, le Hatid Lavo. Le Midrash ne dit pas que c'est une reconstruction toute simple, comme je fais exprès de vous le dire jusqu'à maintenant. J'ai omis volontairement la fin du Midrash. Je vous ai caché la fin du Midrash. Le Midrash ne dit pas ce que j'ai dit. Moi, je vous ai dit jusqu'à maintenant, construction, destruction, reconstruction. C'est faux. C'est construction, destruction, mais reconstruction beaucoup plus élaborée ou meshoukhla la fille de la voix. Et là, je vous dis la vérité. Que la deuxième phase, celle de la reconstruction, sera beaucoup plus grande que la destruction, bien entendu, mais même que la première construction. Et donc on pourra comprendre le secret. Parce qu'après la première construction et la destruction qui lui faisait suite, on ne revient pas au même degré dans lequel nous étions au départ. Et là, ce sera construit et élaboré, beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, beaucoup plus beau qu'avant. Et donc c'est ça la nouveauté dans ce tour, c'est que le degré atteint après la destruction, après la crise, Yosef Meoulé de Madrigato, il est beaucoup plus fort, beaucoup plus élevé que la première étape. L'école Zelama, et pourquoi? Pourquoi il est plus haut? Il reste non, il barak ou l'étude le livrage. Et là, je cite les kabbalistes. Parce que le désir divin, entre guillemets, la volonté divine, c'est de faire du bien aux créatures. Et pour faire du bien à une créature, je ne peux pas la forcer à recevoir mon bien. Si je veux vous donner une pomme et je vous force parce que je vous mets un pistolet, mange, vous n'allez pas apprécier cette pomme. Vous devez avoir une certaine recherche, une certaine envie, un languissement même, un désir qui vient de vous. Donc, Akadosh Baruch Hu a créé ce système. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne la totalité et il la retire. C'est comme un enfant. On veut lui montrer une glace, on dit, tu veux cette glace? Alors l'enfant va commencer à vouloir véritablement. Dieu nous a déjà fait goûter les choses. Quand Dieu nous fait goûter la Torah dans le ventre de la mère, c'est pas pour nous la faire oublier gratuitement. C'est pour qu'on languisse cette Torah lorsqu'on sort. Quelqu'un qui étudie la Torah dans ce monde, c'est parce qu'il a un souvenir actif, beaucoup plus fort que celui qui n'étudie pas. Et il a un désir d'étude parce qu'il se rappelle ce qu'il a vécu dans le ventre de sa mère. Tout simplement, il fait une chazara, une répétition de ce qu'il a déjà goûté. La lumière qu'un juif, qu'un homme d'Israël veut atteindre, et les sages nous disent que le juif veut atteindre les plus grandes lumières. Pourquoi? Il est toujours extrémiste dans sa recherche. Il veut le grand plaisir. Pourquoi? Parce qu'il a déjà goûté la grande lumière. Quand Akadosh Baruch Hu veut faire du bien à quelqu'un, Yochlou le Kabel et Souvo, Bederech Hanechona, c'est le Bechira Chofsi qui va nous donner le choix, le libre choix. Tant que nous n'avons pas le libre choix et que les choses sont forcées, ce n'est pas du bien. Metrinat ou Malchuto de la Somme qui bloue à l'aime. La royauté divine ne se reçoit que lorsqu'elle est Berasson, par un désir, par une volonté de l'homme. Dieu ne vient pas avec des mitraillettes nous forcer et nous massacrer comme un dieu extérieur qui vient nous appuyer sur la tête, recevez ma Torah. Ce n'est pas du judaïsme ça. La Torah n'est pas extérieure à nous. Dieu n'est pas extérieur à nous. Si Dieu est extérieur à moi, ça veut dire qu'il est étranger à ma vie. Et donc si je sers un dieu étranger, en hébreu, ça s'appelle de l'Avodah Zara. Tout simplement. Dieu est en moi. Dieu est à l'intérieur d'Israël. Le Chaya Olam Nata Betochem. C'est-à-dire que les mitzvot et la Torah que je fais ne sont pas extérieures sur ma tête. Elles sont de l'intérieur vers l'extérieur. Ça change tout. רק באופן כזה, seulement de cette manière là, ניתן לדבר על קבלה שלמה ואמיתית. On peut parler d'une réception complète, parfaite. Une vraie réception. Ou que moi je ne saïe ma pasouk, c'est un vaillard Elohim et Tao qui tombe. Et c'est pour ça que la fin du pasouk, c'est Dieu a vu que la lumière était bonne. C'est-à-dire que nous l'avons accepté. Achayat connaît Bad Yakar Benadir, un couturier, achète un tissu très cher, très rare. Ou que Oumatri est à Bodato, mais quand il commence son travail, ou Gozer Otolixarim, il commence à le découper. Ni Semit Bonen, ni Bachout, celui qui ne connaît pas la couture et qui voit ce couturier avec un œil extérieur, il se dit celui-là il est fou. Il avait un tissu magnifique, il est en train de le découper. Rochev Shachayat Azemesuga, elle a ce col maasa ben benet ben matara brura l'itfon khalifa naam. En réalité, le but de ce tailleur, c'est de créer une tenue, un costume magnifique. Et pour ça, il faut passer par une étape de coupure. Zeuta Ali Khabinyan, c'est comme ça que l'on construit. Akhorban Rabinyan. Il y a des destructions qui sont en réalité partie intégrante de la construction. Amechudat Zameshuklan. Ouvechayenu Anu. Et nous terminons en arrivant dans notre vie à nous. Niseeno Yodea Lirote Tatmuna Kolele. Celui qui n'arrive pas à voir l'image globale de la réalité dans laquelle nous sommes, et surtout en Israël. Hamotet est un mechanéen, mais sous ta sebène, quand la pratique, si nous n'arrivons pas à trouver le dénominateur commun entre tous les détails que nous voyons, nous allons devenir fous. Si vous allumez la télévision ou si vous allumez la radio et vous n'êtes que dans les détails, vous allez devenir fous. Là, on est attaqué par là, là, on est attaqué par là, celui-là, il a fait une embrouille, l'autre, il a fait un truc, ça ne s'arrête pas. Si je ne vois pas le cheminement divin à travers cette histoire, si les détails me font perdre l'image globale, si les petits bouts du puzzle me font perdre l'image du puzzle, je ne vais jamais arriver. Yachol mehera lipol chad v'shalom le'olam apirouz. Et des gens comme ça tombent dans le monde de la séparation. Dans la Kabbalah, ça s'appelle le monde des clipots, le monde des écorces. Parce qu'ils ne voient les choses que dans les écorces. Le matin, c'est le dikaon veyehouch chad v'shalom. Et vous avez des gens dépressifs à cause de ça. La chen alimoud achashou v'achayim. C'est pour ça que l'étude importante dans la vie, ou les six seder ayadou klal ou pratou klal, c'est d'étudier les choses d'abord dans leur totalité, après seulement rentrer dans les détails, puis retrouver la totalité. Qui nous a donné cet ordre-là? Tous les matins, nous le disons dans la fila, Rabbi Ishmael Omer, du Shlosh Esrei Midot HaTorah Nidreshet, klal ou pratou klal. D'abord étudie l'idée globale de l'étude dans laquelle tu es. Après, tu rentreras dans les détails, c'est important. Pourquoi? Parce que tu es venu du tout. Tu n'as pas commencé par les détails. Et en plus, le plus important, c'est que tu ne restes pas à la fin dans les détails, tu reviens au tout. C'est-à-dire que tu es entouré entre deux tout. Comme Binyan, Khorban et Binyan. C'est exactement le rythme. Bayom Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, nous avons exactement tout ça. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah, la racine de l'année? Donc, Akadosh Baruch Hu va nous donner tout ce que je viens de vous dire, en allusion, dans quoi? Dans le son du chauffard. Qu'est-ce qu'on fait dans le chauffard? Skia. Svarim. Trois. Skia. C'est-à-dire, Skia, c'est quoi? Un son parfait qui ne bouge pas. C'est-à-dire l'éternité. Par quoi on termine le chauffard? Par le même son. Et au milieu, il y a toutes les brisures. C'est la panique. C'est exactement pareil. Le son du chauffard vient nous donner le rythme de la vie. Nous avons une totalité au départ, une totalité à la fin, et au milieu, nous avons toute la panique et les brisures et tout ce que vous voulez, mais il faut marcher. Il faut avancer. On n'a pas le droit, je sors un petit peu le texte pour terminer le cours oralement, sans le texte, on n'a pas le droit de tomber, de sombrer au milieu des shvarim. Comment ça s'appelle en hébreu? Shvarim, c'est-à-dire les crises, les brisures. On n'a pas le droit de s'arrêter là-bas. Il n'y a aucune skia du chauffard qui s'arrête là-bas. C'est interdit. Celui qui s'arrête au milieu, il est foutu. Celui qui s'arrête de marcher, il est foutu. Nous sommes obligés de continuer à marcher. C'est un optimisme juif. Personne ne peut nous arrêter. Il y a une chanson en hébreu. Et ta mandina azot, iefsa leafsik. C'est une mélodie qui vous tape au système, on ne peut pas l'arrêter. Et c'est exactement ça. Nous sommes têtus. Am kse oref. Nous avons la nuque dure. Pourquoi ? Parce que nous devons marcher, avancer. Et même si nous avons des brisures au milieu, c'est pas grave. Vous savez comment s'appelle la chaise, le lit sur lequel la femme enceinte est assise en hébreu ? Masber. Incroyable. Et Aïssa, Yosef, c'est à la Masber. La femme est assise sur la crise. Et si vous l'écoutez, elle veut rentrer à la maison. Je ne veux plus accoucher, laissez-moi tranquille. C'est obligé, c'est fini. Dans la Sarah de cette semaine, on a mis exactement pareil. Dieu se compare lui-même à une femme enceinte et il dit, est-ce que vous avez déjà vu une femme enceinte qui, au bout de sa grossesse, dit non, je veux arrêter tout le processus, c'est fini. Elle est obligée de sortir le bébé. Moi aussi, ce bébé va sortir. Autrement dit, la Géoula, la matière. Je ne vais pas arrêter au milieu du processus. Donc suivez-moi. Ne me laissez pas au milieu de la route, du chemin. Ayez confiance, à la fin c'est le plus dur. Chaque jour c'est comme un an. Parce qu'on ne voit plus la fin. Mais c'est comme ça que ça marche. Maintenant vous l'avez sur le cours. C'est plus facile à accepter que de ne pas comprendre la réalité. Shevaipol Tzadik Vekam. Les Tzadikim tombent 7 fois dans ce monde. Mais ils se relèvent. Un jour, un prof est rentré dans une classe de voyous et le pauvre, il s'est cassé la figure à l'entrée de la classe. Et tous les élèves ont commencé à lui balancer des papillons et des machins et des bouts de papier et se moquer de lui. Il s'est levé, il leur a dit, première leçon, on a le droit de tomber, mais il faut savoir se relever. Et celui qui tombe, c'est un sadique, mais il se relève, il ne reste pas dans sa chute. Le prophète nous dit Gadol Ivie Habaita Aharon Minarishon. Le dernier temple sera beaucoup plus grand que le premier. Quand Akadosh Baruch Hu nous a donné les premières tables de la loi, elles se sont cassées. Où est-ce que les amis ? La poubelle ? Pas du tout. Elles sont dans la même boîte où sont les deuxièmes tables. À quoi ça sert de garder des brisures de tables ? Pour nous donner la leçon de notre vie. C'est que même les brisures que tu as eues dans ta vie font partie de ta construction. Tout d'abord. Je